Olivier Bénis pour le journal. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à toutes et à tous. Non, la France n'a pas du tout envie d'avoir elle aussi sa quatrième vague de Covid comme certains de ses voisins. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'en inquiète aujourd'hui. Vous l'entendrez, pendant ce temps, les Landes soufflent un peu. L'épidémie et le variant Delta reculent dans le département. De son côté, la CNIL valide l'idée de permettre aux médecins traitants de savoir quels patients sont vaccinés ou non, mais avec des règles très strictes. On reviendra également sur l'assassinat ce matin du président haïtien. Un coup dur pour le pays. Sa place dans la communauté et sur place et dans la communauté internationale, on craint une étincelle qui mettrait à nouveau le feu aux poudres. Il risque la perpétuité. Hubert Caouissin sera fixé sur son sort ce soir avec le verdict dans le procès Troadec du nom de la famille de quatre personnes qu'il est accusé d'avoir tué. Aux Pays-Bas, émotion nationale après une tentative de meurtre contre un journaliste d'investigation. Nous irons sur place également. Nous ferons aussi le point sur la 11e étape du Tour de France, l'étape du Ventoux, remportée par un cycliste belge tout à l'heure, et sur la demi-finale de l'Euro. Angleterre-Danemark, ce sera à 21h. En attendant, Fabienne, juste après ce journal, le téléphone sonne, tourne son regard vers les Jeux Olympiques.
En tout cas, vers Brigitte Henriquet, c'est sa spécialité qui vous intéresse. C'est la première femme présidente du Comité National Olympique Sportif Français. Ça veut dire qu'elle a l'œil effectivement sur les JO à Paris, qu'elle doit encore nous apprendre à désirer. Vous pourrez lui en parler. Elle a aussi pour tâche de remettre le sport en marche après le Covid et aussi de féminiser les instances. Tout ça, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Je vous parle d'un temps qui ne remonte pas à si longtemps, 2 semaines à peine. Rassurée par la baisse de toutes les courbes épidémiques, la France a abandonné le couvre-feu et la plupart des restrictions. La campagne de vaccination battait son plein, on envisageait presque sereinement les mois à venir. Et puis patatras, ces derniers jours laissent à nouveau craindre un retour en force de l'épidémie. Au niveau mondial, l'OMS annonce qu'on a passé le cap des 4 millions de morts du Covid. Elle met en garde contre un relâchement global des restrictions avec l'arrivée de l'été. Et en France, quand on écoute Gabriel Attal, le ton est de moins en moins serein.
Les signaux d'alerte se multiplient et nous pourrions suivre la même trajectoire que certains de nos voisins. Les indicateurs hospitaliers continuent de s'améliorer. Nous allons probablement passer sous la barre des 1000 patients en réanimation, mais le risque d'une quatrième vague rapide est là. Cette situation est liée au variant Delta, qui est beaucoup plus agressif que les variants précédents. Dans ce contexte, le vaccin est une chance à saisir. Grâce à la vaccination massive, nous avons déjà pu lever presque toutes les restrictions qui s'étaient appliquées dans notre pays au printemps dernier. Grâce à la vaccination, nous avons une chance de maintenir au maximum le contrôle de l'épidémie. Demain dépend plus que jamais de nous et la vaccination est notre carte maîtresse. Le vaccin est désormais accessible à tous, partout et tout le temps. Il est possible d'adapter la période entre les deux doses. Il est possible aussi de se faire vacciner sur son lieu de vacances. Non seulement le vaccin est accessible, mais il est sûr.
Gabriel Attal qui évoquait donc ce seuil des 1000 patients en réanimation, seuil sous lequel on vient de passer, on vient tout juste de l'apprendre pour la première fois depuis septembre 2020. De son côté, Olivier Véran prépare les esprits à une vaccination obligatoire des soignants. La vaccination n'est pas une pénalité mais une chance de vaincre le virus, a-t-il assuré devant leurs représentants. Donc tout n'est pas sombre dans les Landes par exemple, un département particulièrement touché par le fameux variant Delta ces dernières semaines avec des restrictions sanitaires adaptées, eh bien le taux d'incidence vient de repasser sous le seuil d'alerte. Les choses semblent donc s'y arranger à Alice Cachaner, même si les autorités sanitaires restent prudentes.
Oui, car le variant Delta, c'est 85% des nouvelles infections dans les Landes et que le taux d'incidence oscille toujours autour de 50 et ce fameux seuil d'urgence, explique Didier Couteau, délégué départemental de l'Agence régionale de santé dans les Landes.
Il y a deux façons de voir les choses, hein. Soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide. Il faut considérer qu'on n'est pas du tout dans une flambée et que le plan d'action et donc les mesures prises ont vraiment permis de contenir. Mais en même temps, on fait aussi le constat qu'on a du mal à baisser parce qu'il y a de temps en temps des clusters, notamment dans des entreprises.
Des clusters sous contrôle et des opérations de traçage qui ont permis de remonter la piste du variant Delta jusqu'au 28 avril. Mais voilà, à ce jour, les autorités ne savent toujours pas pourquoi les contaminations sont plus importantes dans le département qu'ailleurs.
Alors, on va peut-être pas parler de mystère, mais effectivement, les Landes ont été fortement impactées. Pourquoi les Landes plus qu'un autre département? ça, on n'est pas en mesure de le dire aujourd'hui. On est dans une situation qui reste atypique, puisqu'on est au-delà du double des données nationales.
C'est d'autant plus intriguant que les taux de vaccination dans les Landes sont particulièrement élevés. 60% de première dose, 40% de la population complètement vaccinée. En prévision de la saison touristique, des restrictions sanitaires pourraient être maintenues dans certaines communes des Landes.
Merci Alice Cachaner. Parmi les meilleures armes contre le Covid-19, il y a donc la vaccination, même s'il reste des réfractaires, des indécis ou des étourdis qui n'ont pas encore franchi le cap. Pour les convaincre, les médecins traitants vont bientôt pouvoir connaître le nom de leurs patients toujours pas vaccinés. Dans un avis publié ce matin, la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, valide le principe, mais veut l'encadrer de manière très stricte, Julien Baldacchino.
Oui, la CNIL n'est pas opposée à ce que les médecins traitants soient au courant du statut vaccinal de leurs patients. En revanche, c'est la création de listes de patients classés selon des critères, en l'occurrence la vaccination, qui pose problème à la Commission. Du fait du caractère exceptionnel de la crise sanitaire, l'organisation chargée de veiller sur le respect des données privées donne malgré tout son feu vert au gouvernement pour que l'assurance maladie puisse transmettre aux médecins traitants le nom des patients non vaccinés. Mais elle fixe trois conditions strictes. La création et la transmission de la liste ne doit pas être systématique. Elle devra se faire seulement à la demande du médecin traitant. Et par ailleurs, le médecin doit s'engager à détruire cette liste dès la fin de l'action de sensibilisation. Enfin, la CNIL rappelle que pour l'heure, chacun a le droit de ne pas se faire vacciner. Elle souligne donc que la prise de contact, soit par le médecin traitant, soit par l'assurance maladie, doit avoir un rôle d'information et de sensibilisation et qu'elle n'est pas là pour convaincre quelqu'un qui aurait déjà fait part de son refus.
Merci Julien Baldacchino.
Haïti, de nouveau dans la tourmente.
Après l'assassinat ce matin, on le disait, de son président Jovenel Moïse, tué par balle à son domicile par un commando dont on sait pour l'instant peu de choses, le premier ministre par intérim a déclaré l'état de siège dans le pays, ce qui renforce les pouvoirs de l'exécutif. Bonsoir Amélie Baron.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, notamment pour nos confrères de RFI. Vous vivez en Haïti depuis plus de 10 ans. Vous connaissez parfaitement le pays. Jovenel Moïse était loin d'être un président parfait. 7 premiers ministres en 4 ans, des controverses qui se multipliaient. Mais de là à l'assassiner, comment en est-on arrivé là, selon vous?
Alors, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui en Haïti. Jovenel Moïse avait, vous l'avez dit, contre lui, une très large opposition politique et beaucoup de secteurs de la société civile réclamaient son départ du pouvoir, mais pour le poursuivre en justice, pour qu'il réponde des accusations de potentielle corruption. Son impopularité aussi avait grandi face à sa volonté récemment de changer la constitution par voie de référendum, alors que justement, la loi haïtienne interdit les référendums constitutionnels. Alors, il faut noter là que Jovenel Moïse n'aurait de toute façon pas pu bénéficier des changements qu'aurait apporté une nouvelle constitution. Alors, qui aurait eu intérêt et qui aura intérêt à tuer le président haïtien 6 mois avant la fin de son mandat? C'est la grande inconnue. Qui a mobilisé ce commando composé d'individus qui, selon les témoins, parlaient anglais et espagnol? On se pose la question, d'autant plus que si cela avait été un coup d'État, je dirais, classique, les protagonistes auraient déjà revendiqué l'attaque et auraient pris le pouvoir, mais ça n'est pas le cas. Il est déjà 13h à Port-au-Prince et les rues de la capitale sont calmes et désertes, car justement ce flou sur les circonstances et sur les commanditaires de l'assassinat du président Jovenel Moïse pousse tout le monde en Haïti à la plus grande prudence.
Merci beaucoup Amélie Baron. On le disait, la situation est donc tendue, floue, complexe en Haïti et cela inquiète forcément la communauté international, Christian Chéneau.
Oui, le Conseil de sécurité de l'ONU, actuellement présidé par la France, est dit profondément choqué par l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Ce crime est une attaque contre l'ordre démocratique d'Haïti et de la région, a réagi de son côté Luis Abinader, le président de la République dominicaine voisine, qui a ordonné la fermeture de la frontière commune entre les deux pays. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, déclare être préoccupé par un risque d'instabilité et d'une spirale de la violence dans ce pays, l'un des plus pauvre de la planète. Cet assassinat du président haïtien s'inscrit dans un climat politique et sécuritaire très dégradé, s'inquiète Jean-Yves Le Drian, le patron du Quai d'Orsay. Haïti est aujourd'hui un pays à la dérive et ne concentre plus les regards de la communauté internationale. Ainsi, après y avoir longtemps déployé des casques bleus, l'ONU n'entretient plus sur place depuis fin 2019 qu'une mission d'appui politique bien dérisoire face à l'immensité des problèmes à régler.
Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France, merci à vous.
Le verdict ce soir dans le procès Troadec.
Hubert Kawissin risque la perpétuité. Il est accusé d'avoir tué 4 membres d'une même famille, les Troadec. Les jurés délibèrent maintenant depuis plus de 4 heures. La décision devrait tomber dans la soirée. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Olivier.
À la fin de l'audience, l'accusé a demandé pardon aux proches des victimes.
Oui, je regrette infiniment ce qui s'est passé à Orvault et ce que j'ai fait après. Hubert Kawissa, en pull blanc, les mains dans le dos, se tourne vers les sœurs de Brigitte et les tantes de Pascal. Il demande pardon aux proches et à tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie avant d'égrener d'une voix grave. Je demande pardon à Sébastien, je demande pardon à Charlotte, je demande pardon à Brigitte, je demande pardon à Pascal. Comme si le vibrant plaidoyer livré par ses avocats avait réussi à ébranler ce détachement qui émane de lui. Pour maître Thierry Filion, il est impossible de juger Hubert Kawissin sans prendre en compte son délire paranoïaque.
Si on ne retient pas cette affection psychiatrique au centre des agissements d'Hubert Kawissin, on passe totalement à côté du dossier. On peut le faire, on peut dire les faits sont trop abominables, il y a 4 morts, et puisqu'il y a 4 morts, ce sera forcément perpétuité. Mais à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'expertise, il n'y a plus besoin de s'intéresser à l'homme, et je crois que c'est quand même l'un des fondements essentiels du procès en France.
Contre Lydie Troadec, jugée pour recel de cadavres et modification de scène de crime, l'accusation a requis le maximum, 3 ans de prison. Ses avocats ont demandé qu'on ne renvoie pas derrière les barreaux cette femme à la vie en ruine qui n'a jamais voulu la mort de son frère.
Corinne Audouin avec Stéphane Beaufils pour les moyens techniques. Qu'on ne fasse plus jamais culpabiliser les victimes de cyberharcèlement, c'est ce qu'espère Mila, 18 ans, victime de plusieurs dizaines de milliers de messages haineux l'an dernier sur les réseaux sociaux. 11 des 13 prévenus jugés pour avoir été quelques-unes des gouttes formant ce tsunami de violence verbale ont écopé ce matin de peines de prison avec sursis jusqu'à 6 mois et devront payer au total 2500 euros chacun pour le préjudice subi et les frais d'avocat de la jeune fille. Le plan de sauvegarde de l'emploi du voyagiste TUI France, annulé par la cour d'appel de Versailles tout à l'heure pour une question de procédure. La direction compte maintenant saisir le Conseil d'État. Le PSE prévoit la suppression de 587 emplois sur 904. L'émotion aux Pays-Bas et au-delà, un journaliste néerlandais a été pris pour cible par une attaque à l'arme à feu hier en plein centre-ville d'Amsterdam. Peter R. de Vries est toujours entre la vie et la mort. L'Union européenne notamment dénonce un crime contre la liberté de la presse. Bonsoir Antoine Moutot.
Je me trouve à l'endroit même où le journaliste Peter de Vries s'est fait tirer dessus hier soir. Il faut imaginer, on est dans le centre historique d'Amsterdam, dans une rue très passante où se trouvent de nombreux bars et des restaurants. En ce moment, il y a quelques policiers, pas mal de médias, mais aussi des Néerlandais, souvent très émus, qui viennent se recueillir. Un mémorial improvisé avec des fleurs et des bougies a même été dressé. Et il faut avoir à l'idée qu'aux Pays-Bas, eh bien, tout le monde connaît Peter de Vries, notamment pour son émission diffusée tous les soirs. Il incarne en quelque sorte à lui tout seul une liberté à laquelle les Néerlandais sont très attachés. Alors actuellement, le journaliste est toujours à l'hôpital dans un état critique. Il a été blessé à la tête. Et dans le volet judiciaire, la police a annoncé l'arrestation de 2 personnes. Le rôle de ces suspects reste encore à déterminer. Mais on sait que le journaliste était un spécialiste de la grande criminalité, notamment le trafic de drogue. Et à ce titre, il était régulièrement la cible de menaces.
Merci beaucoup pour ces précisions, Jérémy Audouard. Donc, ils se sont tant aimés et pourtant aujourd'hui, le torchon brûle entre Donald Trump et Twitter, Facebook et Google, qui ont longtemps participé, parfois bien malgré eux, à sa gloire. L'ancien président américain vient d'annoncer une plainte collective contre les 3 géants du numérique, les accusant d'être responsables d'une censure illégale et inconstitutionnelle à son encontre, après la suspension, voire la suppression de certains de ses comptes sur Internet. Direction le Tour de France pour une étape d'enfer au sens le plus littéral du terme. Les coureurs s'attaquaient aujourd'hui à presque 200 km de montagne, dont pas moins de 2 ascensions du Mont Ventoux. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir.
Et c'est une étape qui s'achève avec la victoire du Belge Wout Van Aert. J'espère que je prononce bien.
Ah, très bien. Et quelle victoire, hein, vraiment, pour le coureur de la Jumbo qui a lâché un ses compagnons d'échappée, à commencer par Julien Alaphilippe dans la 2e montée du Ventoux, la plus rude. À 26 ans, le champion de Belgique signe déjà son 4e succès sur un tour, mais c'est, dit-il, sa plus belle victoire.
Évidemment, je ne m'attendais pas à gagner cette étape avant le tour, mais hier, je me suis mis à y croire. J'ai demandé au gars de l'équipe si je pouvais partir dans l'échappée. C'est une des montées les plus iconiques du tour, une des plus belles du monde du vélo. C'est peut-être ma plus belle victoire jusqu'ici.
Plus belle victoire, hein, car pour la petite histoire, c'est le premier col que le petit Van Aert a monté à l'âge de 10 ans. Oui, vous avez bien entendu. Un âge où, limite, moi, je faisais encore du vélo avec 4 roues.
Bon, au classement général, pas de changement en revanche. Hein. Tadej Pogačar reste en jaune.
Oui, mais surprise, hein, le Slovène a été attaqué. Et pour la première fois, il a montré une demi-faiblesse. Hein. Tout est relatif. Il reste bel et bien le leader de ce tour avec plus de 5 minutes d'avance sur son dauphin, le Colombien Rigoberto Urán. Le grand perdant du jour, c'est le Français David Gaudu qui, malade, finit à plus de 25 minutes et perd tout espoir de podium. Gaudu, forcément abattu, nous dit son directeur sportif à la Groupama FDJ, Yvon Madiot.
Au bout de quelques kilomètres, il nous a dit « je me sens pas bien, et pas de jambes, chaud ». Et là, il est en train de vomir actuellement. Là. Puis on passe de la pluie, il y a deux jours, on était sous la pluie et le froid. Et là, on arrive, c'est les premières chaleurs. Voilà, pour nous, c'est des journées très difficiles à vivre. Maintenant, on part. Hein.
Et David Gaudu qui espère repartir demain. Mazel, et on va finir sur une bonne note tout de même. Une belle histoire, encore une. Julien Bernard devant aujourd'hui, grand attaquant sur les pentes du Ventoux, comme son papa, Jeff, consultant cyclisme de France Inter, vainqueur ici il y a 34 ans.
On sait tous qu'elle est particulière cette étape pour moi. Après, j'étais vraiment assez frustré de ne pas en avoir pris une vraiment depuis le début du tour. Donc j'avais vraiment, vraiment envie. Ça commençait vraiment à un petit peu m'énerver à l'intérieur. Donc de l'avoir fait aujourd'hui, tant mieux, c'est une pierre de coup, on va dire. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai cru que j'allais monter à pied après le Ventoux tellement j'étais mort. 10 premiers kilomètres après dans le Ventoux, c'était vraiment, vraiment l'enfer. J'ai plutôt obligé de manger tout ce que j'avais, boire tout ce que j'avais pour essayer de reprendre un peu d'énergie.
Le Ventoux, paradis lunaire pour les uns, enfer terrestre pour les autres. Demain, ça sera plus calme. 12e étape de Saint-Paul-Trois-Châteaux à Nîmes.
Merci beaucoup Fanny Le Chevestrier, vous étiez avec Romain Lucquens pour les moyens techniques. Football's coming home, pour citer l'hymne des supporters anglais. Ce soir, le mythique stade londonien de Wembley verra s'affronter l'Angleterre et le Danemark en demi-finale de l'Euro 2020. Nos voisins british espèrent mettre fin à une malédiction d'un demi-siècle sans titre. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Olivier,
vous êtes juste
good evening.
Good evening plutôt, oui, vous êtes en direct de Wembley. Quelle est l'ambiance d'abord sur place?
Écoutez, l'ambiance monte, est de plus en plus chaude, vous l'imaginez, parce que l'Angleterre est favorite ce soir dans cette deuxième demi-finale face au Danemark, invité surprise de ce dernier carré, porté par un supplément d'âme depuis l'accident cardiaque du meneur de jeu Christian Eriksen lors du premier match. Il y a d'ailleurs de courageux supporters danois qui ont fait le déplacement malgré les restrictions sanitaires, mais l'Angleterre est bien favorite, invaincue depuis le début de la compétition, qui joue à domicile. Wembley, vous en parliez autour de nous, ça prête à trembler derrière sa sélection. 67 500 spectateurs attendus au total, dont, vous l'imaginez, une écrasante majorité d'Anglaises et d'Anglais de tous âges venus en espérant vivre ce soir un moment historique, une première finale européenne de l'Angleterre et ainsi se rapprocher d'un deuxième titre majeur, vous le disiez, histoire aussi de tourner la page de l'Euro 96. Il y a 25 ans, quand l'Angleterre avait été éliminée en demi-finale par l'Allemagne, c'était ici, dans ce stade surnommé le Temple du Football, et actuellement ensoleillé, comme quoi Olivier, tous les espoirs sont permis ce soir.
Et comme quoi tout arrive. Merci beaucoup Alexandre Vaux avec Frédéric Kérou à la technique. Et puis lui, c'est une énorme déception qui vient de lui arriver. Roger Federer vient d'être éliminé en quart de finale de Wimbledon par Hubert Hurkacz. Voilà, très mauvaise nouvelle pour Roger Federer. Bon, c'était sans doute peut-être le dernier Wimbledon. On termine avec cette idée étonnante à Lyon. Pour éviter de trop suffoquer en ville, la métropole écologiste expérimente une peinture anti-chaleur. 100 mètres carrés ont été posés ce matin au pied d'une résidence universitaire du quartier très fréquenté de la Guillotière. Elle doit permettre de faire baisser la température de la voirie à défaut de pouvoir planter des arbres partout. Le reportage de Mathilde Imberti.
La peinture est beige en l'occurrence, mais peu importe la couleur, l'essentiel est dans sa composition, dit Sonia Turmel, ingénieure au service voirie, qui a proposé l'expérimentation.
Elle est isolante parce qu'elle est constituée de billes de céramique, elle-même constituée de vide, et c'est bien ce vide qui fait l'isolant thermique. On sait qu'on n'emmagasine pas la chaleur.
Thermomètre en main, elle mesure les effets seulement quelques heures après la pose du revêtement.
Donc un revêtement existant, on est sur un asphalte noir, on est à 41,4 degrés, il est un peu plus de 13 heures. Au niveau de la peinture, on est à 30,3 degrés. On a déjà une différence de température d'une dizaine de degrés en fait, entre un revêtement existant qui stocke et la peinture anti-chaleur Climatrode présentée.
Cette peinture est déjà utilisée pour isoler les toitures ou les terrasses de bâtiments industriels notamment, mais pas encore sur la voirie, d'où ce test porté par la métropole de Lyon et son président, l'écologiste Bruno Bernard.
On a un gros enjeu de faire diminuer les îlots de chaleur dans la métropole de Lyon. Donc quand on n'a pas la solution de pouvoir planter des arbres pour gagner en température, donc ça fait partie des choses qu'on étudie, qu'on expérimente pour pouvoir éventuellement l'appliquer dans les années qui viennent.
C'est un produit pour l'instant importé des États-Unis. Il faudra plus de demandes pour que se crée une filière de production de peinture anti-chaleur en France. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
La peinture beige anti-chaleur de Lyon, et dans le studio de France Inter, la peinture, elle est rouge, mais comme comme il n'y a pas de fenêtre, ça ne prend pas la chaleur. C'est là toute l'astuce, Fabienne.
C'est vrai, mais pas de fenêtre, on aimerait bien qu'il y en ait une quand même de temps en temps. Si on pouvait avoir de l'air, je dis ça, je dis rien, un peu d'air. Allez, merci Olivier, à demain.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Elodie Kellac, encore des averses.
Oui, un réveil souvent bien nuageux avec déjà quelques averses près de l'océan, près des frontières du Nord et surtout sur le flanc Est où elles seront plus nombreuses et parfois orageuses. Pour avoir du soleil, il faudra aller en Méditerranée, mais vous aurez du vent. Et puis pour les températures, le matin, souvent 10 à 16 degrés jusqu'à 22 en Méditerranée.
Et sinon, des orages encore dans l'Est l'après-midi.
Oui, des orages parfois costauds des Alpes jusqu'à l'Alsace. Entre les Hauts-de-France, la région parisienne, le Nord-Est, quelques averses et un coup de tonnerre possible. Et puis ailleurs, ce sera plus lumineux avec des éclaircies plus larges. Un risque d'averses principalement de la Bretagne à l'Aquitaine. Pour les températures, souvent 18 à 24 degrés, 18 à Brest, 21 à Lille, Caen, Châteauroux ou Tarbes, 22 à Metz et à Lyon, 24 du côté de Toulouse. Et puis il fera jusqu'à 27 à 30 degrés autour de la Méditerranée sous le soleil, Fabienne.
Élodie Kellac de Météo France, merci beaucoup Élodie.